Nous allons lire dans Jean 15. Jean 15, 7 à 8.
Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Voilà. Donc le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Et toujours dans ce passage, il dit que on ne peut rien faire sans lui. Donc au verset 5, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc notre thème, c'est porter du fruit pour le Seigneur. Et lorsqu'on dit porter du fruit, on pense à l'arbre. Et ce qu'on oublie, ou peut-être qu'on a négligé, c'est que quand la branche porte du fruit, ce n'est pas son fruit à elle. La branche n'est que le canal. Donc c'est le fruit de l'arbre, ce n'est pas le fruit de la branche. Et le Seigneur veut nous rappeler que nous devons porter du fruit pour lui et non pas pour nous. Un prédicateur doit prêcher pour Dieu et non pas pour que lui soit accepté, reconnu comme bon prédicateur. Un chanteur doit chanter pour le Seigneur et non pas pour que les gens disent qu'il chante bien. Un chrétien doit vivre, porter du fruit pour Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu produit du fruit en lui. Et la condition, c'est qu'il demeure en Dieu. Donc, c'est ça la condition. Demeurer dans le Seigneur, c'est respecter sa logique, être dans sa logique, être dans sa pensée à lui. C'est comme ça qu'on peut porter du fruit. Il ne suffit pas de faire de bons actes. On m'a posé la question, on m'a dit, mais oui, mais on m'a donné des exemples des gens qui font de bonnes choses, entre guillemets. On dit, mais pasteur, mais tu vas dire que ces gens-là font mal alors que quelque part leur action est positive. Ça ne suffit pas de faire des actions positives. C'est écrit dans Matthieu 7. Beaucoup diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Il ne suffit pas de faire des actions positives. Il faut porter du fruit. Ce n'est pas la même chose. Quand la branche porte du fruit, la branche est inactive. C'est Dieu qui agit. Alors qu'on peut faire des actions positives par nous-mêmes. Ça, ce n'est pas porter du fruit. Porter du fruit, c'est laisser Dieu faire en nous. Et ça suppose que nous soyons, en quelque sorte, livrés. Sans force par nous-mêmes. Et parfois en contradiction avec notre chair. C'est ça, porter du fruit pour Dieu. Pourquoi le Seigneur dit, celui qui doit me suivre doit porter sa croix et me suivre? Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit sans qu'on soit crucifié. On peut faire des exploits sans porter du fruit pour Dieu. Porter du fruit passe par un cadeau de soi-même. C'est-à-dire que finalement, les hommes peut-être ne te reconnaîtront pas. Mais Dieu seul sait. Pourquoi on n'aime pas porter du fruit? Parce que notre récompense est au ciel. Les gens veulent la récompense ici sur la terre. Les gens veulent, comme dans certaines régions d'Afrique, il y a des gens qui travaillent pour manger, pour construire des choses que ici sur terre, dont eux-mêmes vont en profiter. Ils ne peuvent pas se dire, je fais ça pour mes enfants. Il veut manger le fruit lui-même. Donc, il porte du fruit pour lui-même. Il y a des prédicateurs qui prêchent pour qu'ils soient connus comme bons prédicateurs. Ils cherchent à porter du fruit pour eux-mêmes. Ça, ce n'est pas porter du fruit pour Dieu. On est dans un rôle avec Dieu, mais quelque part, on en profite soi-même. Le but, c'est que soi-même, on soit élevé. Ce n'est pas porter du fruit pour Dieu. Ça, c'est la religion. On peut même être correct sans porter du fruit pour Dieu. Tu es correct, tu ne pèches pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, mais tu ne portes pas de fruit pour Dieu. Tu es comme les pharisiens, correct, mais stérile. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Et pourquoi les gens sont étonnés que Dieu dise que David est l'homme selon son cœur, malgré certains péchés de David que nous connaissons? Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, parce que c'est lui qui rend les gens parfaits. Mais il cherche des gens qui vont se laisser travailler pour qu'ils portent du fruit pour sa gloire. Et David fait partie de ces gens-là. Nous lisons dans 1 Samuel 17, à partir du verset 17.
Lisons dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 éphas de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu cet homme s'avancer ? Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Excusez-moi. David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme les premières fois. Lorsque l'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès. Auprès lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtut d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main.
Amen. Voilà, donc il y a guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Les soldats font des cris de guerre. Donc, ils aimaient Dieu parce qu'ils font des cris de guerre. Ils aimaient Israël. On peut toujours dire qu'on aime Dieu, on sert Dieu, mais jusqu'à quel point? Ils aimaient Dieu, mais dès que Goliath s'est manifesté, ils ont oublié les cris. Chacun cherchait à quoi? À sauver sa vie. Ainsi, bien-aimés, tôt ou tard, au milieu de nous ou dans notre propre vie, Dieu montrera si nous portons du fruit pour nous-mêmes ou pour lui. Un jour, il y aura conflit entre ton intérêt personnel et l'intérêt de Dieu. C'est arrivé ce jour-là. Si on pouvait les regarder à distance, on allait dire, mais ils aiment Dieu, ils aiment Israël, ils se préparent à la guerre. Mais quand Goliath s'est manifesté, chacun s'est caché parce qu'il y avait le risque de perdre sa vie. Mais pourtant, c'était le combat de l'Éternel parce qu'il poussait des cris de joie par rapport à l'armée de l'Éternel. Mais il y avait conflit entre l'intérêt personnel et l'intérêt de Dieu. Un jour, tôt ou tard, dans la vie de chacun, Dieu va mettre les points sur les i. Il te montrera que tu portais du fruit, c'est vrai, mais tu portais du fruit pour toi. Ce n'était pas pour Dieu. Et ce genre de fruit ne peut pas durer. Mohamed Ali a porté beaucoup de fruits pour lui-même. Mais à 43 ans, au moment où certains commencent vraiment à vivre bien, lui, il a eu la maladie de Parkinson. À quoi ça a servi toutes ces années de 18 ans à 40 ans où il a battu tous les hommes de l'humanité physiquement? Le fruit qu'on porte pour soi-même, ça finit par se détruire. Et on le regrette. Mais après, on ne peut pas faire marche arrière. Après, on se dit, mais j'aurais dû porter du fruit pour Dieu. Ça, ça serait tenu. Et David, quand il arrive, il se dit, mais je ne peux pas laisser faire ça. Il est en train d'insulter l'armée d'Israël. Donc, il insulte Dieu. Vous voyez la logique de David. S'il insulte notre armée, il insulte Dieu. Est-ce que David était un soldat? Non. Est-ce que David avait l'âge de se battre? Non. Est-ce que David avait été envoyé en guerre? Non. Il avait été envoyé pour apporter de la nourriture à ses frères et rentrer à la maison s'occuper des moutons. Il pouvait dire, ce n'est pas mon problème. Je vais obéir à mon papa. Il m'a demandé d'amener la nourriture et de rentrer. C'est ainsi que beaucoup regardent la souffrance de l'humanité. Ils ne disent pas comme ça, ce n'est pas mon problème. Mais ils détournent les regards. Ils s'occupent de leurs affaires. En disant, après tout, c'est Dieu qui m'a donné telle chose pour m'en occuper. Après tout, c'est Dieu qui m'a donné les enfants pour m'en occuper. Après tout, mais ils ont bien vu qu'il y avait Dieu qui était offensé, Dieu qui était négligé, Dieu qui était accusé. À chaque fois qu'il y a la souffrance sur la terre, les inconvertis, Dieu est accusé, il est dénigré. On parle du mal de lui. Vous pouvez vous imaginer que dans une ville qu'on appelle Témissa, en Afrique du Sud, sur 100% de femmes enceintes, 1% seulement sont séronégatives. Ça veut dire que 99% ont le sida. Mais comment un chrétien peut entendre de telles choses et s'occuper de ses affaires? Il faut qu'à un moment, on te dise non. Moi, j'ai Dieu, les autres n'ont rien du tout. Il faut que je leur apporte Dieu. Mais on entend, on voit et on choisit de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de son futur mariage, de s'occuper de ceci, de cela. Est-ce que le Pôle emploi m'a suffisamment bien payé? Mais les gens sont en train de souffrir. Et Dieu, on blasphème sur Dieu à cause de tout ça. David a dit non, je ne peux pas laisser faire. Je vais payer de ma propre personne. Les autres, ils étaient volontaires. C'était des guerriers. Mais quand il y a eu le risque de perdre leur vie, ils ont reculé. Certains vont dire, oui, mais David avait une expérience avec Dieu. Il avait déjà vaincu le lion, le loup, l'ours, tout ce qu'on veut. Mais David, c'était qui? C'était un enfant d'Israël comme les autres. Si toi, tu dis, mais oui, mais ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour un tel. Mais pourquoi pour un tel si nous tous, nous sommes des enfants de Dieu? On ne dit pas qu'on doit jouer tous le même rôle, mais on doit apporter le même souci pour l'honneur de Dieu. Et beaucoup sont en train de travailler pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à porter du fruit pour Dieu. Parce que porter du fruit pour Dieu passe par la mort, passe par le fait que soi-même on n'existe plus, mais c'est Dieu qui prend la première place. Et ça, tout le monde ne veut pas de ça. Beaucoup sont en train de gérer Dieu, de gérer avec Dieu leur vie. Et tôt ou tard, ça se verra. Un jour, ça s'est vu là. Ça s'est vu qu'il y avait une différence entre l'homme selon le cœur de Dieu, David, et les autres. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est fautif, mais je suis en train de montrer que l'attitude de cœur n'était pas la même. Il n'y a pas eu une réaction à dire « Goliath est en train de se manifester, il insulte notre Dieu, on va prier, on va faire quelque chose. » Non, dès que Goliath sortait, chacun se cachait parce qu'il y avait le risque de mourir. Et quand les païens voient ça, se disent « Oh, mais on est pareil. » Voilà le chrétien devant l'argent, il fléchit le genou. On est identique. Tu vas te quereller pour 20 euros qu'un païen te doit. Tu vas te quereller pour la nourriture devant un païen. Il se dit « Ah, finalement, on est pareil. » Tu n'es pas prêt à payer de ta personne. Qu'est-ce qui avait touché Nebuchadnezzar? C'est que les amis de Daniel étaient prêts à payer de leur personne pour entrer dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar a été impressionné par le miracle, mais le miracle ne l'a pas converti. Ce qui a converti Nebuchadnezzar, lui-même il le dit, parce que ce n'est pas moi qui le dis, il dit ça dans son discours. Quand vous allez relire, lisez l'histoire. Dans son discours, il dit « Ces gens-là étaient prêts à donner leur vie pour leur Dieu. » C'est ça qui l'a impressionné. C'est pas le miracle est venu après. Mais ces gens-là étaient prêts à entrer dans la fournaise à cause de l'honneur de leur Dieu. Parce que beaucoup vont dire « Mais David avait l'onction, il avait la... » Mais ce n'est pas ça qui animait David. Ce qui animait David, c'est qu'il ne pouvait pas laisser faire, on se moque de son Dieu. Maintenant qu'il ait l'onction, la puissance pour vaincre Goliath, ben, c'est bien. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il animait? Mais bien, mais qu'est-ce que nous en savons? Peut-être si un soldat s'était dit, moi je ne peux pas laisser l'honneur de l'Éternel, Dieu aurait donné la victoire par ce soldat-là. Quand vous lisez l'histoire de David, David n'est pas le seul à être utilisé dans la force. Il y a ce qu'on appelle les 30 vaillants combattants de David. David n'était pas le seul. Il y a les Josheb, Bachébet, Éléazar Éléazar, à lui tout seul, je crois, a tué 300 personnes avec son épée. David n'est pas le seul. Quand vous lisez l'histoire de David, il y a même quelqu'un qui a tué quelqu'un de plus fort que Goliath, qui avait 6 doigts à chaque main, 6 doigts à chaque pied. Un géant. Il n'y a pas que David qui a fait des exploits, mais il y a des gens qui ont dit on ne laissera pas l'honneur de Dieu. Donc, ne cachons pas derrière le fait que David était loin, il était... Non. David était prêt à se battre pour l'honneur de son Dieu. Il ne regardait pas comme ça. Et aujourd'hui, on regarde. On fait notre part. On vient prier, on vient chanter, mais on ne s'investit pas. Voilà. On ne s'investit pas. On est dans la religion, on fait ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Quand Dieu va pointer ta voiture, quand Dieu va pointer tes enfants, les enfants vont venir à la maison. La maîtresse m'a fait ceci. À l'église, quelqu'un m'a parlé de cette manière. Au lieu de dire à l'enfant, mon fils, ma fille, nous sommes comme Jésus-Christ. Si on nous fait du mal, nous devons répondre par le bien et aimer ceux qui nous font du mal. On va dire, ben, je vais voir avec la personne. Donc quand on touche à l'enfant, on oublie la Bible. Tôt ou tard, Dieu montrera qui s'investit, qui ne s'investit pas. Quand il faut faire des cris de guerre, tout le monde est là. Alléluia, Hosanna. Mais il y aura un moment où Dieu va montrer, là, tu portes du fruit pour toi-même. Tu ne cherches pas à porter du fruit pour moi. David pouvait se dire, ce n'est pas mon problème. On m'a envoyé par papa pour apporter la nourriture à mes frères et faire demi-tour. Et beaucoup de gens disent, c'est, beaucoup de gens dans leur fonctionnement, ce qui se passe en Inde, c'est comme si ce n'était pas leur problème. Ce qui se passe à Paris, c'est comme si ce n'était pas leur problème. Dans leur fonctionnement, il n'y a qu'une logique de localité, leur maison, leur vie, leur boulot. Est-ce qu'on m'a donné ceci par Dieu? Il me manque cela. Il n'y a pas la logique de l'œuvre de Dieu. Je m'investis pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il n'y a pas cette logique-là. Vous savez, dans Éphésiens, dans Apocalypse, au chapitre 2, il est question de l'église d'Éphèse, qui était correcte, mais Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'était une église correcte. Quand vous lisez, il n'y avait pas d'erreur. Mais il n'y avait pas l'investissement attendu par Dieu. Un amour sans intérêt pour Dieu qui apporte un investissement total. David a dit, c'est mon problème. Je prends les choses sur mes épaules. On finit par tomber dans un fonctionnement où on a un cadre, une salle, on fait ce qu'il faut et puis on mène notre vie. On ne s'intéresse plus au vrai projet de Dieu. Luc 19, 10, le Fils de Dieu est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus. J'aime beaucoup mon frère André, qui a peut-être aujourd'hui 85 ans, qui a passé toute sa vie à aller dans les pays où le christianisme est interdit. Et il a fait un livre, le titre du livre, c'est « Que je cherche mes frères ». Une fois, il est tombé, il était dans un petit avion, ils sont tombés, il a eu le mal de dos, ce mal de dos l'a accompagné toute sa vie. Mais il continuait à aller de pays en pays parce qu'il cherchait ses frères. Il était concerné par l'œuvre de Dieu. Pas par son projet personnel. Vous savez, ce qu'on peut faire de peu devenir ton propre projet. Au début, tu as commencé par faire ça pour Dieu. Après, ça devient ton propre projet. Le jour où Dieu veut changer un peu, tu n'es plus la même personne. On doit servir Dieu et non pas servir son propre projet dans un cadre chrétien. David a dit, c'est mon affaire, même si je ne suis qu'un berger. Je ne suis qu'un enfant, c'est mon affaire. C'est très important de considérer que le souci de Dieu, c'est mon affaire, je suis son fils. C'est mon affaire, je suis sa fille. Et de donner sa vie. David a pris le risque de donner sa vie. Les gens pourront dire, mais oui, mais je veux bien, mais est-ce que ça réussira? Je viens bien m'engager pour telle cause, intercéder, prier, me donner. Mais est-ce que ça marchera? Non. La première étape, c'est être outré, être choqué par ce qui se passe. Quand on entend, bien-aimé, on était en Afrique du Sud, que parfois, il y a une drogue qui coûte cher et les gens, ils sont à quatre. Il y a un qui, ils achètent, ils mettent 40 euros, par exemple, ensemble, et il y a ils achètent la drogue, il y a un qui se shoote. Quand il est shooté, puisqu'ils ne peuvent pas acheter ça pour les quatre, on laisse un se shooter, et puis les autres vont prendre le sang dans l'autre, mettre chez eux, pour aussi recevoir l'effet. Alors, quand vous entendez ça, comment tu peux encore continuer à vivre pour toi-même? Est-ce que notre vie sur terre, c'est comme les chiens, les animaux, manger, dormir? Non, 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 non. Nous sommes les descendants de Jésus. Jésus a donné sa vie. Quand il a vu la détresse humaine, il est venu donner sa vie. Il n'est pas venu utiliser Dieu pour ses projets. Lui, le Fils de Dieu, n'a pas eu de château ici sur terre. On n'est pas contre que les gens aient des maisons, tout cela, mais tout cela doit servir à Dieu. On doit vivre pour Dieu. Dieu ne cherche pas des religieux. Il cherche des gens qui donnent leur vie. Il y a des situations difficiles, même dans l'œuvre de Dieu, même localement. Mais on se dit, comme certains l'auraient dit à la place de David, moi je me limite à telle zone, alors que ton investissement peut servir pour beaucoup de choses. Ton investissement total. Et il y a, comme je disais, il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on réussira? David dit, mais oui, on ne peut que réussir parce que notre Dieu, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a dit à Goliath, ce n'est pas une question de réussite, ce n'est pas une question de bouclier, de lance, c'est une question de victoire. Or, la victoire appartient à l'Éternel. Le Seigneur a crié à la croix, tout est accompli. Ce n'est pas une question personnelle. Pourquoi quand on a peur, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai réussi? Donc c'est devenu une question personnelle. Mais quand on dit, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Là on sait que ça ne peut jamais échouer. Parce que Dieu n'échoue jamais. Mais quand ça devient une question personnelle, on se pose la question, est-ce que mon investissement produira du résultat. Voilà. Est-ce que le don financier... Vous savez, la veuve qui a donné dans Luc chapitre 21, il a donné 2 pièces. S'il avait raisonné comme beaucoup, il n'aurait jamais donné. C'est peut-être 40 centimes. Il aurait dit, mais 40 centimes, qu'est-ce que ça peut faire pour un grand temple comme ça? Le petit qui a donné 5 pains et 2 poissons, s'il avait regardé à ce que lui l'avait, il n'aurait jamais donné. Il aurait dit, est-ce que mon investissement, ça va servir à quoi? Il y a 5000 personnes. Non, Dieu te garantit que ton investissement est important parce que dans le monde spirituel, Dieu agit lorsque l'investissement est total. On reviendra sur ça, sur une autre prédication intitulée « Petit troupeau ». Dieu n'a pas besoin du grand nombre. Il a besoin d'un investissement total d'une personne. Avec ça, il agit plus qu'avec un grand nombre sclérosé, statique, des cow-boys fatigués. Non. Avec une personne. Bien-aimé, la preuve, c'est quoi? On est en train de lire ça. Il y avait toute une armée et un seul enfant, David. Avec un seul enfant, Dieu a réussi plus qu'avec une armée. La preuve, nous l'avons. C'est lié à l'investissement total. La réussite est au bout parce que Christ a crié, tout est accompli. Mais ce n'est pas ça qui. C'est pas le début. Le début, c'est être choqué, dire, mais après tout, la terre appartient à notre Dieu. Et deuxièmement, dire, c'est mon affaire. Puisque mon Dieu, mon Père est humilié, mon Père est négligé, c'est mon affaire. Je ne peux pas laisser les choses ainsi dans la télévision française, on ne cite le nom de Dieu aucunement. C'est mon affaire. Après les moyens, c'est Dieu qui donne. David a pris 5 pierres. Mais il y a un processus. Être choqué par la réalité qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ensuite, dire c'est mon affaire. Et Dieu te dira, tu prends 5 pierres. Mais tu vas risquer ta vie. Parce que tu vas affronter Goliath. Mais tu vas risquer ta vie parce que je te demande tout. Lisons Luc 18, à partir du verset 18 jusqu'à 23.
Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »
Amen. C'est possible d'arriver à donner sa vie, c'est possible. Mais il faut considérer la question. Vous voyez, cet homme était ce qu'on appelle un parfait, humainement parlant, un parfait serviteur de Dieu. Il obéissait à toute la loi, pas de problème, et il donnait la dîme. Mais il ne donnait pas sa vie. Son investissement n'était pas total. Et Jésus lui dit, si tu veux vraiment servir Dieu, aller au ciel, ton investissement doit être total. C'est vie pour vie. Tu donnes ta vie et tu reçois la vie du Seigneur. C'est vie pour vie. Ce n'est pas une question de dîme. Ce n'est pas une question de venir régulièrement prier. C'est une question de vie. Il n'y a pas d'autre christianisme, bien-aimé. C'est le seul christianisme. Donner sa vie pour Dieu, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et la gloire de Dieu viendra sur nous. Les choses changeront. Qui a imposé David à David d'aller affronter Goliath? Personne. Il a donné sa vie pour Dieu et la gloire de Dieu était sur lui. Les amis de Daniel ont donné leur vie. Ils n'ont pas cherché à bosser pour eux-mêmes. Vous savez, les amis de Daniel, s'ils cherchaient à bosser pour eux-mêmes, ils allaient demander un sursis. Ils allaient dire, bon roi, laisse-nous réfléchir un peu. Ils ont dit, non, tu as touché à Dieu. On n'est pas d'accord. On ne touche pas à l'Éternel. Le monde a touché à Dieu. On se moque de Dieu partout. Les gens souffrent. Mais nous, nous avons Jésus. Nous avons la solution. Et chacun s'occupe de ses affaires. Comme c'est écrit dans Agé, vous bâtissez vos maisons lambrissées pendant que l'œuvre de Dieu est en perte de vitesse, pendant que l'humanité que Dieu a créée est en souffrance. Et parfois, Dieu ne nous demande pas à faire des grands exploits. Il nous demande juste une petite chose. Mais cette petite chose-là, c'est un tournant dans notre vie. Mais on refuse, on se dit non. Je garde mes avantages. Mais je vais quand même régulièrement à l'église. Je donne mes offrandes. C'est bon. Non, ce que Dieu veut, c'est un investissement total. Ce jeune homme-là, qui peut dire qu'aujourd'hui, en termes d'action religieuse, qui au milieu de nous peut dire qu'il dépassait cet homme-là? Personne. Mais Jésus démontre qu'il n'avait pas donné sa vie. Clairement. Ce que le Seigneur cherche, ce n'est pas une vie religieuse parfaite, mais c'est donner sa vie. Être prêt à tout lâcher pour lui. On a vu ça dans les actes des apôtres. On dit toujours, nous voulons les miracles. Oui, mais dans les actes des apôtres, les gens qui ont vu, quand il y a eu la gloire de Dieu, les gens ont vendu leur terrain. Ils ont montré par là que l'œuvre de Dieu était plus importante que n'importe quoi, parce que l'œuvre de Dieu sauvait les âmes, amenait les gens au ciel. Est-ce qu'il y a le prix pour une âme? Et j'étais en déplacement. À chaque fois, j'entends deux fois de suite. On me dit, mais pasteur, on a des difficultés à payer le loyer de la salle. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Nous sommes dans la religion. Je n'ai jamais parlé de telles choses. Mais bien aimé, comme vous le constatez, je n'ai plus une santé parfaite et je n'ai plus le temps à perdre. Il faut se réveiller et servir Dieu à 100%. On attend quoi? Comment des vrais enfants de Dieu, on va se retrouver dans ces situations-là? L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on commence à prêcher la prospérité. Qu'on prêche que celui qui va donner sera béni. On ne le prêchera jamais. Il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de cette salle parce que Jésus n'en avait pas. Mais c'est pour nous la salle. Et quand j'ai travaillé en Afrique du Sud, il n'y avait pas cette salle. Quand je travaille en Guyane, il n'y a pas cette salle. Quand les prédications passent sur cet Internet, on peut le faire dans une chambre. La parole de Dieu circulera toujours. Mais celui qui ne saisit pas la bénédiction que Dieu lui fait, s'en prendra à lui-même. Mais je vous le dis, nous, on ne cédera jamais. On ne prêchera jamais que les gens donnent de l'argent. Mais on enseigne ce qui est écrit dans la parole et ce que Jésus lui-même a enseigné en disant la veuve a donné tout ce qu'il avait. Et c'est ça qui était le vrai ministère que le Seigneur attendait. Ce qui nous arrive est le témoignage que la religion s'est installée parmi nous. On fait les choses correctement. On ne vole pas, on ne ment pas, mais on n'a pas donné notre vie au Seigneur. Comme je vous l'avais dit, il y aura toujours un jour où Dieu montrera ça. Mais l'incapacité à payer le loyer montre cela, qu'il y a un problème dans l'Église. Même si en apparence tout le monde est correct, en apparence tout le monde est droit, mais Dieu va nous montrer où se trouve le problème. Tous les gens ne sont pas droits, ils n'ont pas donné leur vie. Maintenant, je ne vise personne, je donne le constat par rapport à l'Église. Je dis que on reconnaît une maladie par les symptômes. Ça, c'est un symptôme du fait qu'il y a un souci. J'ai un certain âge. Je sais ce qui se passe. Chacun veut construire sa petite vie. Et souvent, en comparaison avec l'autre, il s'est acheté sa voiture, moi aussi. Il s'est acheté une maison, moi aussi. Tiens, de nouvelles paires de chaussures, moi aussi. Mais tu ne sais pas d'où vient cette paire de chaussures. Peut-être c'est quelqu'un qui lui a donné. Peut-être la voiture, c'est quelqu'un qui lui a donné. Et on s'embarque dans des comparaisons, dans des convoitises. Finalement, on veut construire son propre avenir. Et on oublie l'œuvre de Dieu. C'est ça la réalité. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on donne sa vie totalement pour servir l'Éternel. C'est comme ça qu'il va se glorifier. Dieu a donné son Fils. Il n'a pas calculé. Que chacun regarde à lui-même. Nous refusons des actions émotionnelles après une prédication. On veut faire des choses. Non. Regarde à toi-même. Comme c'est écrit dans Apocalypse 2, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Que chacun regarde à lui-même pour dire, Seigneur, si je me suis écarté, si je suis responsable de la religiosité au milieu de nous, révèle-moi cela, dévoile-moi et que je revienne à la vérité, afin que ta gloire se manifeste. Les gens que nous sauverons sur la terre, nous les retrouverons au ciel. Mais tout ce que nous bâtissons dans la logique de porter du fruit pour soi-même. Que ce soit des bonnes prédications, tout ce que tu vas faire dans la logique de porter du fruit pour toi-même, ça restera sur terre. C'est des fruits en paille. C'est des produits en paille, ça brûlera. C'est des produits en bois. Mais lorsqu'on laisse Dieu prendre toute la place, on porte du fruit. Et c'est la responsabilité. Pour clôturer, je veux dire que chacun prenne sa responsabilité. David n'a pas agi en groupe. Il a agi en prenant sa responsabilité. Mais dans un groupe, chacun prend sa responsabilité. Au lieu de dire, puisque les autres dorment, moi aussi je dors. Non, tu prends ta responsabilité devant Dieu pour être un canal dont Dieu va se servir pour faire avancer son œuvre sur la terre. Son œuvre sur la terre, ce n'est pas cette église. Cette église fait partie de l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais l'œuvre de Dieu sur la terre est grande. Et le Seigneur va nous révéler cette œuvre. Et on pourra dire, Seigneur, je me dispose totalement. Moi et tout ce que je suis, ma famille, mes biens. Mais il faut que ton nom soit glorifié et que la multitude soit sauvée. Parce que toi, Seigneur, tu as donné ton fils pour moi. J'ai écouté le témoignage d'une Indienne qu'on a tapée toute la journée parce qu'elle s'était convertie à Jésus. Son frère et son père l'ont tapée toute une journée et ça s'est répété à plusieurs reprises. La dernière fois, ils l'ont déposée chez les policiers. On a dit, c'est une prostituée, on ne veut pas d'elle. Faites tout ce que vous voulez d'elle. Taper toute la journée une femme. Ensuite, vous l'abandonnez à la police. Faites tout ce que vous voulez d'elle. Mais cette femme-là, vous savez ce qu'elle a dit en son cœur? Mon Seigneur a payé un plus grand prix que moi. Voilà. Malgré tout ce qu'on m'a fait, ça ne dépasse pas ce que mon Seigneur a payé comme prix pour moi. Elle est restée enfant de Dieu. Et par elle, son propre père qui l'avait tapé ainsi s'est converti. Parce qu'elle s'est dit, il y a un qui a payé un plus grand prix. Mais bien aimé, quand tu observes Jésus, comment tu peux tomber dans l'égoïsme? Que Dieu nous bénisse. Ancien, tu peux prendre.